nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
J'accueille aujourd'hui dans l'émission Focus le chancelier de l'Institut de France depuis janvier 2006, Gabriel De Breuil, de l'Académie française, également membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1997. Autant dire que l'histoire et la vie de l'Institut de France ont peu de secrets pour vous, Gabriel De Breuil, d'autant que vous êtes à la tête de ce faisceau depuis maintenant un peu moins de 2 ans. Et je rappelle pour nos internautes que l'Institut abrite 5 académies, l'Académie française, la plus connue, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques, la Benjamine. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
La création de 4 de ces académies remonte au XVIIe siècle. Dissoute sous la Révolution française en tant qu'institution royale, la nécessité de leur maintien s'est vite imposée. Elles renaissent en 1795, cette fois dans le cadre de la création de l'Institut de France, et accueille une nouvelle section quelques années plus tard à l'origine de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur le chancelier, vous avez pris l'heureuse initiative de réunir à Paris, ici même, à l'Institut, les académies de nos voisins européens. Vous organisez la rencontre des académies européennes du 21 au 23 octobre sur le thème « Les académies en Europe » au XXIe siècle. Pourquoi l'Institut de France et les 5 académies ont-ils pris l'initiative d'une telle manifestation ?
Je dois vous dire que c'est une des premières décisions que j'ai prises, qui m'est venue. Lorsque j'ai été élu chancelier, avant même le 1er janvier 2006, c'est-à-dire ayant été élu quelques semaines avant, j'ai fait part tout de suite de ce projet que je portais peut-être en moi. Et en parlant, j'ai constaté qu'il recueillait une approbation tout à fait générale, aussi bien parmi nos confrères de l'Institut de France que parmi les académiciens étrangers. Probablement, cette rencontre répond à un besoin, peut-être l'air du temps. Et le thème que vous mentionnez doit se lire avec un point d'interrogation. Les académies européennes au XXIe siècle, en réalité, c'est qu'est-ce qu'une académie au XXIe siècle, point d'interrogation. Et c'est cela l'objet de nos entretiens.
Alors, pourquoi avez-vous fait le choix de l'Europe, l'Europe au sens géographique ?
Nous sommes bien interrogés sur cette question. Bien entendu, il y a de grandes académies hors d'Europe, très prestigieuses, très importantes, avec lesquelles nous sommes en relation. Mais l'idée, c'est une rencontre pour nous connaître et réfléchir en commun sur des problèmes qui nous sont communs. Et nous avons l'impression que nous avons des problèmes en commun avec les académies européennes. Peut-être leur ancienneté, elles ont toutes des racines historiques, bien entendu. Peut-être la situation dans laquelle elles sont placées vis-à-vis de la société. Peut-être l'étroitesse de leurs moyens, alors que d'autres académies étrangères sont très prospères.
Académie étrangère pensez-vous ?
Oh, ce qui correspond aux États-Unis, à ce qu'est une académie en Europe. Mm-hmm. Mais il y a de prestigieuses académies en Amérique latine qui ressemblent plus aux nôtres. En réalité, c'est une question de proximité. Il n'y a pas du tout le souci d'exclure. C'est une réunion entre gens qui sont proches et qui n'ont pas eu jusqu'à présent l'occasion de se rencontrer. Nous avons ici à l'Institut de France de nombreuses relations bilatérales avec presque toutes les académies d'Europe et du monde, bien entendu, par des travaux en commun ou par des membres qui font partie de plusieurs académies. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion d'une rencontre collective. Et je pense que cette occasion sera assez riche de constatations, de réflexions en commun. Il s'agit de nous interroger sur des concepts généraux que l'on connaît très bien, qui sont traités, analysés à fond, qui ont fait l'objet d'ouvrages historiques, mais aussi de réfléchir sur des problèmes concrets qui sont moins souvent analysés.
Alors, vous avez fait le choix de l'Europe au sens géographique. Il n'y a pas de volonté particulière, politique, derrière.
Aucune.
Sinon, la nécessité de prendre langue collectivement sur l'avenir des académies en Europe. Alors, 35 pays sont représentés. Qui ne l'est pas ? Ça sera peut-être plus simple de procéder comme ça. Est-ce que,
alors, vous avez dit représentés, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les pays qui sont invités.
Oui, pardon, les académies.
Ce sont les académies. Alors, il se trouve que si, dans un pays, aucune académie n'a répondu à notre invitation, ce pays ne sera pas représenté.
Oui.
Et si, dans un pays, il n'y a pas d'académie, eh bien, il n'est pas représenté. Mais sinon, c'est tous.
Oui.
Alors, le seul cas, c'est la Lituanie, où l'académie n'a pas répondu. Et puis, il y a un autre cas qui est le Monténégro, qui n'a pas d'académie. Alors, bien entendu, nous avons invité les principales académies, celles qui correspondaient aux académies de l'Institut de France. Ça n'est pas toutes les académies en Europe, d'ailleurs. Il y a différentes conceptions. Il y a des académies locales, régionales. Nous avons invité des académies qui avaient une envergure nationale.
Alors, la vocation de ces académies est-elle de nature scientifique, littéraire, artistique, historique ?
Il y a tous les cas de figure.
Oui.
Et c'est assez intéressant, déjà en soi, ça sera la rencontre, elle va être la première étape, c'est de se connaître de ce point de vue-là. Alors, on constate d'emblée qu'il y a peu de configurations comme celle de l'Institut de France, avec 5 académies différentes, indépendantes les unes des autres, et parmi elles, une académie française qui n'a pas d'équivalent en Europe. Voilà. Il y a des académies des sciences, il y a des académies des sciences morales et politiques, des beaux-arts, bien entendu, et même des académies d'histoire et d'inscriptions et belles-lettres, selon la formule ancienne.
Mm-hmm.
Mais on ne trouve pas d'académie qui corresponde à l'académie française. Mais cela n'empêche qu'elle a tout à fait sa place parmi nous, et que l'ensemble est regroupé au sein d'un institut de France qui, à la fois, laisse la totale indépendance des travaux académiques à chacune des académies, et en même temps, représente une synergie de l'ensemble, une représentation auprès des pouvoirs publics qui est très précieuse, qui a ses racines dans l'histoire, bien entendu, mais qui est très précieuse, et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc, il y a des pays qui n'ont qu'une académie, il y a des pays qui ont des académies spécialisées, 2 ou 3 ou 4. Il y a des pays où les académies régionales sont si importantes et si prestigieuses qu'elles ont un rang, disons, d'académie nationale. Quelquefois, elles préexistent à l'État.
Mm-hmm.
C'est le cas en Italie, évidemment. C'est le cas en Espagne. C'est le cas en Allemagne. Et donc, ces académies sont évidemment invitées, bien qu'ayant une nature régionale, mais elles ont en réalité une réalité nationale. Alors, il y a des cas particuliers, par exemple, l'Académie des sciences de Russie est un très puissant organisme qui représente à la fois une Académie des sciences et un CNRS.
Oui.
Qui couvrirait toutes les disciplines, c'est-à-dire qui serait à la fois l'INSERM et donc un
là aussi quelque chose de sans équivalent.
Sans équivalent, sans mm-hmm. aucun équivalent. Donc voilà, c'est le rassemblement de ces corps académiques, disons.
Une grande et riche diversité. Alors, à quoi servent en fait les académies aujourd'hui ? Quelle est leur utilité ?
Ça va être l'objet, évidemment, de nos rencontres. Nous avons essayé de présenter les choses sous plusieurs angles. Et je vous répondrai de manière un petit peu générale avant de répondre de manière plus précise peut-être. Il y a 2 niveaux de réflexion. Le niveau général de l'histoire, de la philologie, des concepts, et où on trouve que les académies puisent leurs racines dans la notion de république des lettres sous la Renaissance et la réunion des esprits éclairés autour du prince dans les cours italiennes et partout en Europe petit à petit pour que se dégage une conscience européenne qui a précédé les académies, et puis elles sont venues organiser les choses autour de corps qui recevaient des statuts de la part des pouvoirs publics. Cela, c'est le niveau très élevé des concepts, très intéressant. Alors évidemment, on passe par les Lumières. L'Europe des Lumières, c'est l'Europe des académies. On passe par la floraison au XIXe siècle d'immenses talents, de génies même, qui redonnent une vigueur formidable à l'esprit académique dans beaucoup de pays européens. Et tous les pays européens, car toutes les académies ont connu une très grande vitalité au 19e siècle, justement. On passe au 20e siècle, où on...
Ça, c'est ce qu'elles ont en commun.
On retrouve cette recherche d'une communauté de l'esprit. Alors, il y a des questions plus concrètes et plus précises, qui sont l'indépendance. Est-ce que les académies sont indépendantes? Est-ce qu'elles doivent l'être? Oui, bien sûr, c'est leur raison d'être. Ce sont des corps indépendants. Qui se recrutent par élection, par cooptation? C'est de la nature même des académies. C'est un recrutement, évidemment, qui recherche l'excellence, qui est d'une certaine manière élitiste, et il le faut bien dans les sciences et dans les disciplines, dans toutes les disciplines. Donc, cela, ça fait partie de la nature des académies. Et cela les rapproche. La question, c'est de savoir si ces données qui sont incontournables correspondent bien aux nécessités de notre époque. Qu'est-ce qu'une académie au XXIe siècle? On sait ce que c'est qu'une académie. Qu'est-ce qu'une académie au XXIe siècle? Et notre rencontre, elle a pour objectif de prouver qu'il y a des missions, des tâches de plus en plus nombreuses, importantes, qui incombent aux académies. C'est en gros la progression du savoir, la conservation du savoir et la transmission du savoir. Voilà, nous sommes des corps savants. On a dit que les académies, c'était le parlement du monde savant. Ça, c'est une donnée concrète qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, alors, des données aussi précises, c'est ce corps savant, ce parlement du monde savant, est-ce qu'il est suffisamment consulté par les pouvoirs publics? Est-ce qu'on fait appel à lui au moment où on crée des commissions d'esprit pour étudier les réformes, par exemple?
C'est inscrit dans les statuts des différentes académies d'Institut de France, rôle d'avis sur
le rôle du conseil, certainement, oui. Et ce rôle est souvent adressé, demandé aux académies de l'Institut de France, aussi aux académies étrangères. Mais on peut penser que, en réalité, on ne fait pas suffisamment appel aux académies dans le rôle de conseil indépendant, distancié par rapport à l'actualité et par rapport aux forces, en réalité, qui se combattent quelquefois à propos des réformes. Et la question, c'est les académies et les réformes. Est-ce que les académies apportent quelque chose dans la conception des réformes?
Les réformes politiques des pays...
Les réformes générales, les réformes de société, les réformes économiques, les réformes sociales, les réformes de l'enseignement, les réformes de la société, tout l'esprit de réforme qui a été si puissant sous la Renaissance, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, l'esprit des Lumières, est encore très puissant aujourd'hui, plus puissant que jamais d'ailleurs. Simplement, fait-on appel suffisamment aux académies pour animer, enrichir cet esprit de réforme?
Diriez-vous que les académies sont moins écoutées des pouvoirs publics aujourd'hui qu'autrefois?
Oh, je dirais non. Plus. Je dirais plus par rapport au 19e siècle. Il y a eu un moment où les académies se sont cantonnées dans leur monde académique et se souciaient assez peu, finalement, de participer à la vie et surtout aux transformations de la société. Elles menaient des travaux savants. Le 19e siècle était laborieux. Ils menaient des travaux savants puissants, d'une extrême importance. Mais les académies étaient moins plongées dans la vie sociale qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle pour les académies en France, elles sont complètement partie intégrante du mouvement de la société. Elles ont toutes, les cinq, une mission de recherche.
Oui.
De recherche. Elles ont toutes une mission de conseil. Et elles ont toutes une mission pour la transmission du savoir. Et nous sommes en plein dans les problèmes actuels. Et donc, nous allons échanger nos constatations avec nos confrères étrangers pour savoir s'ils ressentent la même chose. Je pense que oui, pour la plupart des grandes académies. Et quel problème est-ce que cela nous pose?
En fait, les académiciens sont à la fois des sages et des experts et s'expriment à travers aussi les nombreux prix qu'ils décernent, les fondations qu'ils animent. C'est également commun à toutes les académies d'Europe?
Alors,
il y a aussi
l'idée d'ouvrir
ce rôle
des concours,
à la fois d'évaluation et de récompense.
Oui, oui.
Et aussi, c'est un moyen de cooptation.
L'idée de consacrer les talents, l'idée d'ouvrir des concours, des compétitions et de récompenser les meilleurs est inhérente à l'esprit d'académie et est exercée par toutes les académies. Elles y consacrent beaucoup de soins, beaucoup d'attention et cela réclame beaucoup de temps. Les académies de l'Institut de France vont au-delà depuis une époque récente, mais de manière très forte, depuis quelques années, peut-être 10 ou 15 ans. Elles vont au-delà en ce sens qu'elles font plus que couronner par des prix, des lauriers, des félicitations ou des cérémonies remettant un prix. Elles ont une véritable mission de mécénat. Et cette mission de mécénat est rendue possible par le fait que de très importantes fondations se sont abritées à l'Institut de France par des gestes de mécènes généreux qui ont confié leur patrimoine ou une partie de leur patrimoine à l'Institut de France en lui affectant une destination toujours d'intérêt général, généralement scientifique, de recherche, pour l'éducation, également humanitaire. Et on peut dire que cette mission est de la même nature que celle de donner des prix et des concours. Mais non, parce que les moyens financiers sont tels que la mission de mécénat permet d'accorder non pas des prix, mais un véritable pouvoir d'entreprendre. Les lauréats reçoivent des prix d'une importance telle qu'ils reçoivent en même temps le pouvoir de faire.
De pouvoir monter des équipes de recherche.
De pouvoir d'innover, c'est ça, de monter les laboratoires, de compléter l'équipement d'un laboratoire, de poursuivre nos recherches dans telle direction, d'imaginer même des formes d'institutions sociales pour les plus déshérités qui ne sont pas mises en œuvre par les institutions traditionnelles.
Alors, est-ce que le public suit justement ces travaux académiques et toutes ces innovations en quelque sorte? Comment les académies communiquent-elles avec leur public?
Alors là, vous ouvrez un chapitre.
Un public d'ailleurs, en dehors des académiciens et de ce champ de recherche.
Non, il y a un large
et des
public, ouais.
Alors.
Mais vous ouvrez ce chapitre que nous étudierons ensemble avec nos confrères étrangers, c'est les académies et la médiatisation. Il faut faire connaître l'action des académies et ce n'est pas suffisamment accompli, en France actuellement en tout cas, ça l'est peut-être mieux dans d'autres pays, c'est ce que nous examinerons. Il faut voir que l'académie, dans son concept en général, est déjà une forme de médiatisation, une certaine forme de médiatisation. Tout cet appareil un peu solennel, tout cela, c'est de la médiatisation. Et cela intéresse le public. Mais ce n'est pas une médiatisation adaptée au XXIe siècle. Et donc, il faut rechercher quelle est la forme de médiatisation adaptée. Ça sera un de nos chantiers, peut-être un des plus importants.
Très bien, effectivement, nous enregistrons cet entretien quelques jours avant la rencontre de ces académies d'Europe. Les académies sont-elles des lieux de débat?
Certes, c'est la nature même des académies que d'être un lieu de débat.
Mais en a-t-on connaissance à l'extérieur?
Alors, des débats très vifs, parce que les avis opposés s'expriment de manière ferme et toujours entourés de courtoisie. La courtoisie fait partie de la vie académique. On appelle ça la confraternité. C'est un beau mot et cela recouvre une vraie réalité. Mais alors, il est vrai que le public n'a pas connaissance des débats internes qui existent au sein des académies. Par exemple, pour décerner les prix, le grand prix du roman de l'Académie française. Vous croyez qu'il se...
Non, mais en dehors des
il y a des débats très vifs.
Sûrement, sûrement, on n'en doute pas. Mais sur des débats, sur des grandes questions, est-ce qu'il y a des ateliers, j'imagine, de
travail? Il y a des groupes de travail.
Des groupes de travail, pardon.
Il y a des rapports qui s'élaborent.
Voilà.
Il y a... Oui, oui, bien entendu, cela fait partie du rôle des académies. Il y a eu de multiples occasions sur, par exemple, la liberté d'association à un moment moment où elle avait été mise en cause, l'Académie des sciences morales et politiques a considéré qu'elle était tellement importante dans la vie sociale qu'il fallait prendre la défense de la liberté d'association, et elle l'a fait. Et dans bien d'autres occasions, la plus récente, elle est absolument actuelle, c'est que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a confié aux académies, à l'Institut de France, à l'ensemble des académies, une mission de réflexion sur le thème « Comment réussir la première année à l'université ?» Eh bien, nous sommes en plein dans l'actualité, dans les débats de tous les jours, et nous allons remettre d'ici quelques jours à Madame Pécresse le rapport qui consigne les observations des académiciens. Et ils ne sont pas tous d'accord, je dois vous le dire, sur ce sujet.
Parce qu'on a toujours une image un peu feutrée pour le public de l'extérieur, ou un peu secrète, discret en tout cas, des débats qui peuvent animer les académies.
Oui, la différence qui existe par rapport à bien d'autres corps, c'est que ces débats ne sont pas exposés sur la place publique, en effet. Ils ont lieu.
Très bien. Alors, une autre grande évolution de nos sociétés, et commune à l'Europe et au monde entier, évidemment, c'est le développement de l'outil Internet, qui modifie quand même les échanges, qu'ils soient culturels, politiques, et surtout au niveau de l'information. Internet est devenu, par l'intermédiaire des blogs et des forums, un moyen d'échange à l'échelle mondiale. Et cette interactivité de l'information et des échanges modifie, je ne vais pas vous l'apprendre, nos habitudes et nos économies. Les académies d'Europe sont-elles en phase avec cette évolution majeure? Parce que c'est aussi un moyen de communication.
Il me plaît beaucoup d'examiner cette question ici, à Canal Academy, où vous avez exploité les nouvelles possibilités qu'offre l'Internet pour la diffusion de la réflexion, des travaux académiques, de manière générale, de toutes sortes d'analyses et de documents. Évidemment, nous sommes tous conscients de l'importance extrême de l'Internet, à la fois comme outil de travail pour tout le monde, et pour nous, notamment. Comme outil personnel de travail, nous en servons tous. Comme moyen de diffusion, nous voyons les chiffres, évidemment. C'est tout à fait important et considérable. Alors, la plupart de nos travaux existent sur Internet. Chaque académie a un site. L'Institut de France a un site particulier. Et tous les documents importants, tous les rapports, tout ce qui est important est in extenso sur le site de chaque académie et de l'Institut de France pour sa part, consultable sur l'Internet. Et donc, nous vivons complètement dans le monde de l'Internet. Je n'irai pas jusqu'à dire que certains moyens d'expression qui sont utilisés couramment et quotidiennement par les usagers de l'Internet sont un mode d'expression adopté déjà par les membres des académies. Peut-être y a-t-il des membres des académies qui ont leur blog, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas un moyen, disons, d'approfondir, de poursuivre des travaux académiques. Quant aux différentes formes de communication, en réalité, nous abordons là un autre sujet, qui est l'expression, la qualité de l'expression, qui modèle la pensée, n'est-ce pas, qui permet à la pensée d'aller plus loin, sans parler de la langue. Nous dirons un mot
donc
tout à l'heure.
Les sites sont en français pour les académies abritées ici à l'Institut de France. Y a-t-il des versions certains sites ont une version anglaise.
Certains sites ont des documents
est-ce
en anglais,
que
bien entendu.
Certaines académies de nos voisins européens ont-ils des sites dans leur langue, et en français ou en anglais? Le français est-il représenté?
Je pense que oui. Il y a des académies francophones qui sont presque complètement francophones. L'académie de Bucarest fait un certain nombre de ses travaux en français. Et d'autres exemples aussi. J'aimerais revenir sur la question de la langue après, parce qu'elle est consubstantielle à la réunion des académies européennes, n'est-ce pas? Mais je reviens à l'Internet. Le moment n'est pas venu d'assimiler dans l'expression des travaux académiques les formes qu'emploient les usagers de l'Internet pour communiquer entre eux rapidement. Autrement dit, on ne s'envoie pas de SMS pour donner son avis sur des travaux académiques. Je ne pense pas que ce soit le moment soit venu. Nous recherchons au contraire une expression de qualité et une expression qui permette d'aller plus loin et en tout cas de communiquer toutes les nuances. Et cela, jusqu'à présent, la langue est le meilleur moyen.
La langue, le temps, la réflexion.
La langue, le temps et la réflexion. Quelquefois même le poignet et la main qui écrit. Donc voilà, l'Internet est un merveilleux instrument, ce n'est pas notre moyen d'expression principal. Parlons des langues.
Oui, on avait abordé ce sujet.
Tout d'abord, la rencontre dont nous parlons se déroulera en trois langues. Le français, l'anglais et l'allemand, avec traduction simultanée. Beaucoup d'académiciens étrangers invités s'exprimeront en français, par un souci de courtoisie. Auxquels nous sommes très sensibles. Mais enfin, moi j'ai tenu à ce que les travaux déroulent en langue. Nous ne sommes pas dans la francophonie. La rencontre des académies européennes, c'est l'occasion de constater que la plupart des grandes langues de culture dans le monde sont issues de l'Europe. Et que la nature même de l'Europe, c'est le multilinguisme. Et nous allons cultiver le multilinguisme et nous allons célébrer le multilinguisme car la défense de la langue française, à laquelle nous sommes si attachés, passe par le multilinguisme et la défense du multilinguisme dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde, mais en particulier à l'échelle de l'Europe. Et le multilinguisme est la nature même de l'Europe. Et ça, c'est extrêmement important.
Ça tient particulièrement à cœur à l'Académie française.
Bien entendu.
Alors, on a évoqué tout à l'heure un petit peu aussi la communication des académies, mais je voudrais aborder leur visibilité. On a un petit peu parlé du public, mais leur visibilité et en particulier leur image. Souvent, académie et académisme se confondent dans l'esprit de beaucoup de personnes. Souvent, les académies ont l'image d'un lieu. Oh, je parle pour les académies que je perçois. Hein. Ici, ce sont des académies où ça ne serait pas là que les choses se passent, justement parce qu'on serait décalé ou pas dans cet immédiat, pas dans cette communication abusive. Donc, une image parfois un peu écornée. Alors, cette image est en train de se modifier, mais je vous laisse répondre.
Je voudrais reprendre ce que vous dites.
Oui.
Ne confondons pas. L'académisme, c'est une tendance dans le domaine des arts, qui est récente, le mot est récent lui-même. Et il est né de ce que les académies, en particulier l'Académie française des beaux-arts, a mis en avant un souci de fixité, de respect des traditions, qui la faisait se détourner des nouveaux courants de l'art. Et alors, évidemment, le problème de l'impressionnisme est là, gros comme une montagne. Tout le monde en a conscience. L'Académie n'a pas
accompagné,
fait sa place, reconnu simplement l'impressionnisme. Alors, évidemment, c'est un petit peu important. Mais
il y a une rupture aujourd'hui avec cette image.
Il y a une rupture, avec, bien entendu, la leçon a été...
par la création de la section de photographie, par exemple.
Bien entendu, le cinéma, la photographie, etc. Donc, il ne faut pas dire que les académies ont une image d'académisme. Ce n'est pas cela, la vérité. Ça serait déformer complètement les choses. Ce qui est vrai, c'est que les académies ont par nature un rôle conservateur. C'est le savoir qui s'abrite, disons, dans ses formes, ses corps académiques, et il y a d'abord une mission de conservation du savoir, de travail sur le savoir, et de conservation d'un certain nombre de pensées, de modes de pensée, qui font partie de notre patrimoine. Alors, cette nature propre des académies, qui est la conservation, conservatrice si on veut, mais pour la conservation, englobe-t-elle toute la mission des académies? Certainement pas. La recherche est présente, l'innovation est présente dans tous les domaines, qu'il s'agisse des arts, Et je crois que l'Académie des Beaux-Arts le démontre maintenant, en tout cas elle a dépassé la querelle d'académisme qui a été celle si forte au siècle dernier. Mais c'est le cas aussi de l'Académie française vis-à-vis des écrivains, des littérateurs, c'est le cas de toutes les académies, et les sciences ne récusent aucune des remises en cause. Il n'y a aucun académisme scientifique, n'est-ce pas ? Ne globalisons pas l'image, pas du tout, au contraire. Les académies ont, selon leur nature, leur vocation, ont pour mission la conservation du savoir, mais aussi pour mission le renouvellement du savoir, la recherche et la création. Et elles exercent ces deux missions d'un même mouvement et avec une certaine importance. Alors peut-être que ce n'est pas perçu suffisamment par l'opinion, c'est là le problème. Mmh. Et nous rejoignons celui de la médiatisation. Et là-dessus, je vous rejoins, la médiatisation n'est pas suffisamment faite.
On peut dire aussi que les académiciens, je ne sais pas, par exemple aux sciences, ils sont très proches de leurs collègues en activité, des chercheurs, mais sont-ils professionnellement, ils ne sont plus en activité.
Si, ils le sont.
Ils le sont.
Oui, ils le sont, bien entendu.
Oui.
Il y a des règles statutaires à l'Académie des sciences qui font qu'un certain nombre, une proportion très importante de membres de l'Académie des sciences sont en activité comme chercheurs, comme enseignants, et même dans des laboratoires de l'économie. Et une proportion importante, si, tout à fait. Et au contraire, lorsque...
Est-ce qu'on a l'équivalent dans les autres académies ? Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'elles sont de nature différente, mais comment est-ce qu'elles font pour avoir justement un pied dans l'activité professionnelle des domaines sur lesquels elles se penchent ?
Elles ont chacune leur spécificité, et nous verrons cela avec nos confrères étrangers. C'est très intéressant et très enrichissant de confronter les expériences. Toutes les académies ont cette double nature. Certaines l'expriment, le manifestent mieux que d'autres. L'Académie des sciences le manifeste alors de manière éclatante. Peut-être que d'autres académies, moins. Leur mission aussi joue un rôle dans cette expression, sans délivrer des points ou des bons points. Peut-être que plus la mission de l'Académie est en prise avec la société, plus les activités de l'Académie seront dans le domaine actuel. C'est le cas de l'Académie française, évidemment. La reconnaissance des nouveaux talents en littérature et l'étude de tous les problèmes de la langue française nous plonge, mais complètement, dans l'évolution de la langue aujourd'hui, qui est un des points, justement, de changement de la société. Nous observons cela avec une attention passionnée, je dois vous dire, très informé et de manière tout à fait intéressante. Alors évidemment, une académie qui a pour mission l'histoire, eh bien, elle sera peut-être moins aux prises avec les données actuelles, les problèmes actuels, mais elle a aussi ses chantiers de recherche et regardez le renouveau passionnant de toutes les disciplines archéologiques qui incluent beaucoup de savoirs actuels, modernes. Et cela vous montrera que l'Académie des inscriptions et belles-lettres n'est pas du tout coupée de la recherche la plus actuelle.
La plus en pointe.
Oui. Non, faisons bien attention. Il n'y a pas d'image connotée entre l'activité des académies et, disons, le fait de vivre dans un monde dépassé. Ce n'est pas le cas du tout. Et notre rencontre a pour objet le contraire.
Alors, l'interview est réalisée, je le disais tout à l'heure, quelques jours avant l'événement. Peut-être pourriez-vous nous dévoiler un petit peu le programme. Le champ des académies évolue en dehors d'elle-même. Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, présidera une réflexion sur les académies mémoire, recherche et création. Pouvez-vous nous dire un petit peu
Il y a deux journées et demie donc,
de rencontres.
Voilà, de rencontres. Le dimanche, première rencontre, on n'a pas encore commencé à travailler, et donc c'est Chantilly.
Le fleuron de l'Institut.
De l'Institut de France. Mais je dois vous dire qu'expliquer aux académiciens étrangers ce que représente Chantilly dans le patrimoine de l'Institut et dans l'image de l'Institut de France, c'est quelque chose de très important. Alors, lundi, nous travaillons. Et nous avons réparti M. Michel Zinc, qui est de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui lui est un chercheur et un savant absolument
médiéviste,
dans le siècle, je dois vous dire, dans l'époque, et qui est en même temps professeur au Collège de France, a été chargé de la direction scientifique, disons, des travaux. Alors, nous avons pensé découper les thèmes en deux catégories. Le premier thème, c'est le matin, le lundi matin, et je présiderai la séance d'ouverture sur le thème « Les académies face à l'État et à la société », c'est-à-dire leur environnement, c'est-à-dire les académies tournées vers l'extérieur. Alors, c'est beaucoup de points qui sont abordés là. L'indépendance, on l'a vu, la politisation, les questions, le conseil, le rôle du conseil des pouvoirs publics et de la société en général, la législation, les réformes, etc. Il y a une quantité de sujets.
Ensuite, ce sera l'après-midi avec...
Alors, synthèse des travaux par Jean-Claude Casanova, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. L'après-midi, on inverse la perspective, et c'est la séance de l'après-midi, présidée par Madame Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, sur recherche-création.
Mémoire, recherche, création.
Donc, ce sont les travaux académiques, n'est-ce pas? C'est l'intérieur. Et, bien entendu, là, on est dans notre domaine bien connu de réflexion, et là encore, de nombreux thèmes précis seront abordés, et la synthèse des rapports sera faite par Madame Dominique Meyer de l'Académie des sciences. Jeune biologiste, membre de l'Académie des sciences. Et le lundi soir, nous dînons dans un des autres fleurons de l'Institut de France, qui est le musée Jacquemart-André, boulevard Haussmann à Paris. Le mardi, puisque vous me demandez. Donc le matin, deux grands témoins apporteront leur contribution personnelle. Monsieur Marc Fumaroli, pour les Français, il ne s'exprimant pas au titre de l'Académie française, mais apportant sa contribution, et un associé étranger, Monsieur Jean Rossier, de l'Académie des sciences. Fin de la séance du matin, visite des bibliothèques, parce qu'il y a encore un troisième fleuron dont nous sommes particulièrement fiers. C'est que ici l'Institut même. De France, ici même, dans le Palais des Quatre Nations, abrite deux superbes bibliothèques patrimoniales, la bibliothèque de l'Institut et la bibliothèque Mazarine. Et donc, on ne peut pas ne pas demander aux académiciens étrangers de faire connaissance de ces lieux. Alors, la séance de l'après-midi...
Alors là, c'est l'événement.
C'est la séance solennelle de rentrée des cinq académies sous la coupole, avec une certaine solennité. Là, nous sommes en plein dans le côté traditionnel, et dont nous sommes très fiers. Il n'y a pas de raison de se cacher de cela. Et vous savez qu'il y ait un cérémonial officiel, public, que la garde républicaine décore ces cérémonies, que les roulements de tambour accompagnent l'arrivée des académiciens. Eh bien, il n'y a vraiment pas de quoi sourire. C'est, au contraire, il y a lieu d'être fier que l'État apporte sa caution aux travaux intellectuels des académiciens. Et donc, cette année, cette séance a lieu chaque année.
Voilà.
Et cette année, elle revêt un caractère particulier parce que nous accueillons les 60 académiciens étrangers sous la coupole et que, traditionnellement, 5 interventions ont lieu sur un thème unique, choisi. Alors, chaque académie développe ce thème selon son registre propre. Cette année...
Alors, il y a une nouveauté.
La nouveauté, c'est que les académies qui ont des associés étrangers ont choisi, pour parler en leur nom, les associés étrangers, qui prendront la parole sous la coupole, ils en ont la possibilité, ils sont membres de l'Institut. Mais ils sont associés étrangers et membres d'autres académies étrangères. Et c'est ainsi que, au titre des sciences morales et politiques, l'archiduc Otto de Habsbourg s'exprimera sur l'Europe, et que, par exemple, un ambassadeur croate, M. Emilio Marin, s'exprimera sur cette partie de l'Europe, des Balkans, et sa contribution à l'édification européenne, etc. Très intéressant, très nouveau.
Et quel est le grand thème choisi?
Alors, D'abord, j'indique que l'Académie française, elle, elle n'a pas d'associés étrangers.
Comme ah.
cas particulier, toujours. Et donc, c'est Madame Hélène Carrère-Dancausse qui prendra la parole au nom de l'Académie française et qui abordera cette question tout à fait importante, c'est la langue et dans les nations européennes. Mmh. Alors, le thème, eh bien, c'est le couronnement de tous ces travaux. Et le thème est le suivant, identité nationale au pluriel et universalité de l'esprit. Identité nationale, le thème avait été choisi avant qu'il y ait eu, semble-t-il, des réflexions dans la presse, enfin qu'il y ait eu un débat sur le mot d'identité nationale. Mais lorsqu'on est entre académiciens européens, de parler des identités nationales, eh bien c'est la moindre des choses, n'est-ce pas ? Car chaque académie est représentative de l'identité nationale de son pays, elle en est fière, et donc nous aurons là un rassemblement de multiples identités nationales au sein de l'Europe, et universalité de l'esprit, c'est ce qui nous réunit, et c'est la torsion qui existe entre ces racines nationales et ces travaux intellectuels universels qui fait toute la beauté, je dois dire, de notre réunion des corps académiques.
Alors, Gabriel De Breuil, vous venez de nous présenter ce magnifique programme des rencontres des académies d'Europe. Pour finir, vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir des académies en Europe, sur leur force au XXIe siècle?
Je suis optimiste, je n'ai aucune crainte, je suis même oui, résolument optimiste, et avec toutes les raisons de l'être. Tout ce qui se passe en France, d'ailleurs, nous confirme de jour en jour que les académies ont leur rôle. Je voudrais insister sur deux idées qui ressortiront de cette rencontre, et c'est la vraie raison pour laquelle j'avais pris cette initiative. Premièrement, c'est qu'il existe une Europe des idées. Avant toute construction européenne, il existe une Europe des idées. Et cette Europe des idées, c'est nous qui l'exprimons. Nous en sommes les porteurs. Pas seuls, bien entendu. Mais les corps académiques en sont des porteurs. Et donc, nous allons révéler, et ensemble, avec les différentes sensibilités, qu'il existe bien une Europe des idées au XXIe siècle. C'est important pour tous ceux qui contribuent à la construction européenne et qui sont des mécanismes, des institutions, tout ça est très utile. Mais la base, c'est qu'il existe une Europe des idées. Elle existe. Elle n'est pas à construire. Elle est là. Mmh. Et c'est celle que nous allons montrer. L'autre idée, c'est qu'il s'agit de démontrer la jeunesse des académies. Et je pense que nous y parviendrons.
Je vous remercie, Gabriel De Breuil, de cet entretien qui nous montre combien l'Institut de France est attaché à l'avenir des académies en Europe et pour découvrir justement comment les académies d'Europe envisagent leur avenir. Je donne rendez-vous à nos amis internautes sur Canal Académie pour écouter les débats, les réflexions de ces rencontres qui seront retransmises sur notre antenne. Je vous remercie, Monsieur le Chancelier.
Merci à vous.